Chapitre 29. Roman se faisait cuire des pancakes lorsque Dante poussa la porte d'entrée et se dirigea droit vers l'escalier. « On dirait que t'as pas vu l'intérieur de tes paupières depuis un mois », commenta Roman. Et quelques gouttes de pâte atterrirent sur son avant-bras lorsqu'il retourna le disque doré dans le beurre brûlant. « L'insomnie est un effet secondaire de la trouille », rétorqua Dante. « Y a de quoi avoir peur. Les Black Baron Boys sont sur le sentier de la guerre. » Roman ne chercha pas à contredire son frère. Depuis qu'il s'était fait voler sa livraison d'armes, Torrent vivait dans un état de fureur quasi permanente, et les BBB étaient déchaînés. « Comment va Raynel ? » demanda-t-il. « Hein ? Raynel, j'imagine que t'étais chez Tug. En tout et pour tout, ces 10 derniers jours, t'as dû passer 2 nuits ici. » « Merde, » songea Dante. « Y a vraiment rien qui lui échappe. »«
Ouais. Enfin, j'y suis passé hier. Elle va bien. Je monte dans ma chambre. »«
Ça roule. » Dante était au milieu de l'escalier quand Roman lui posa une autre question qui le paralysa. « Est-ce que t'as eu des nouvelles de Cassidy ?» Il ne se retourna pas et répondit.
« Non, pourquoi ?»«
Je me demandais, c'est tout. » Vu l'humeur de Torrent, la pire des choses serait qu'elle se pointe à Jefferson Run sous prétexte que sa mère lui manque.
Effectivement. Mais non, j'ai pas de nouvelles. Alors qu'il est, elle doit être à l'autre bout du pays.
Espérons. À l'aide d'une spatule, Roman fit glisser son pancake au sommet de la pile qu'il avait déjà constituée. Il emporta son assiette dans le salon et la posa sur la table basse.
Rome ?
Fit Dante.
« Ouais. T'es sur le coup, hein? Je veux dire, quand t'auras réparé les choses, enfin, si t'y arrives, tu penses qu'elle pourra revenir ?»
Roman s'essuya le menton avec sa serviette en papier.
« Il vaudrait sûrement mieux que non, mais oui, peut-être. »« D'accord. Je suis désolé de t'avoir mêlé à toutes ces histoires. »«
T'inquiète, ça va aller. Je t'aime, petit con. »«
C'est moi que tu traites de con, là ?»
fit mine de s'offusquer Dante. « Allez, monte te coucher avant que je t'assomme », rétorqua Roman avec un sourire.
« T'as entendu parler de la communication non-violente ? Ça pourrait être une idée à creuser pour toi !»
Dante se força à accompagner sa plaisanterie d'un rire, mais si Roman avait pu voir son visage, il aurait compris que son petit frère était à deux doigts de fondre en larmes. Dante entra dans sa chambre et sortit son téléphone de sa poche. Il avait un nouveau message.
Il a dit quoi ?
Le texto provenait du téléphone jetable de Cassidy. Il répondit :
Pas encore, c'est compliqué.
Dante s'étendit sur le dos. Sur les murs de sa chambre s'étalaient des posters de rappeurs populaires, d'autres de vieux groupes de rock alternatifs, ainsi que des photos représentant des super-héros du dernier blockbuster. Son père avait coutume de dire que ce n'était pas une chambre d'adulte. Il s'arrêtait sur le seuil, jetait un œil à l'intérieur et secouait la tête d'un air réprobateur avant de lui sortir immanquablement la même réflexion de sa voix de prophète biblique. « Tu n'as plus 12 ans. » À quoi son fils, étalé en travers du lit, répondait
« J'ai plus 12 ans depuis le jour où maman a disparu. »
Tous les deux se dévisageaient alors à travers l'espace et le temps, tels deux sentinelles chargées de garder pour l'éternité le souvenir du pire jour de leur vie. Au bout d'un moment, son père finissait par détourner le regard et s'éloigner dans le couloir en maugréant qu'il avait dû rater quelque chose dans l'éducation de son fils. De son côté, Dante ouvrait le tiroir de sa table de chevet, comme il était en train de le faire à présent, y piochait quelques cachets qu'il s'empressait de gober, afin de ressentir au plus vite l'étreinte douillette de la kétamine et de sombrer vers un endroit où les visages de sa mère et de son père s'estompaient, tandis qu'il flottait au milieu des ruines de son passé, de son présent et de ce qui restait de son avenir. Alors qu'il fermait les yeux et sentait peu à peu les confins de sa conscience s'effriter, il songea que son père avait tort. Cette chambre était bien une chambre d'adulte, un adulte qui était un assemblage fragile de ses pires pulsions, mais un adulte néanmoins. Il était le fils de son père, après tout. Roman rinçait son assiette quand il entendit la sonnerie de son portable. Il vit que c'était Nevea, décrocha, et cala l'appareil entre son épaule et son oreille.
Ça va ? Tu peux passer à la boutique ?
Oui, bien sûr. J'avais prévu d'y faire un saut de toute façon. J'ai du boulot pour un client et il me faut l'ordinateur de papa. Pourquoi ? T'as besoin d'un coup de main ?
En quelque sorte. J'y suis là, donc, si tu peux te dépêcher.
Il n'eut pas le temps de répondre qu'elle mit fin à la communication. Roman observa son portable avant de le rempocher. Il connaissait sa sœur. Si elle avait raccroché comme ça, c'est qu'elle était en colère. Il se demanda si Chauncey avait tenté de lui mettre la pression en lui montrant les photos de son frère en compagnie des BBB. À moins qu'il l'ait menacé. En tout cas, le connaissant, c'était plausible. Roman récupéra les clés de sa voiture de location sur le crochet, puisque Dante avait gardé celle de la Challenger. Il avait parlé d'un copain qu'il devait aller voir du côté de Richmond et avait dit à Roman que, vu la distance, c'était un coup à ce que son aîné doive payer un supplément kilométrique. Pour une fois que Dante se montrait responsable, Roman n'avait pas cherché à discuter. Il monta dans la berline, et alors qu'il faisait demi-tour, il songea qu'il fallait vraiment qu'il appelle quelqu'un pour tondre la pelouse. Quand il arriva au crématorium, Nevea était au téléphone dans le bureau de leur père. Si Roman en croyait ce qu'il percevait de la conversation, il s'agissait du fournisseur de propane. Il décida d'attendre à l'accueil qu'elle ait terminé son appel. Son regard fut alors attiré par une photo accrochée au mur, dans un large cadre en bois. Il l'avait déjà remarquée, mais sans jamais y prêter attention. Entre l'épaisseur du cadre et le reflet du verre, l'image était toujours restée en périphérie de son champ de vision. Mais pas là. Là, il examina la photo et fut instantanément replongé au moment où elle avait été prise. Le jour de l'inauguration officielle du crématorium. Il s'agissait d'un cliché en noir et blanc. Son père et sa mère se tenaient debout, derrière Dante, Nevea et lui, qui faisaient les guignols. Dans leur dos, le crématorium et son enseigne flambant neuve qui trônait à 1,20 m au-dessus de l'entrée, en lettres blanches sur fond noir, « Carruthers Cremation Services ». C'était Oscar qui avait immortalisé cet instant. Roman se demanda si Oscar et sa mère avaient couché ensemble ce jour-là. Ou peut-être plus tard dans la soirée, pendant que Keith faisait le tour des funérariums de la région pour négocier des partenariats. Si elle se sentait délaissée, pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé? Et si elle lui en avait parlé, pourquoi ne l'avait-il pas écouté? Nevea raccrocha et quitta le bureau pour se diriger vers la salle de crémation. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer », annonça-t-elle. Roman la suivit jusqu'à l'espace de stockage, juste à côté de la chambre froide. Nevea s'arrêta devant l'étagère sur laquelle étaient entreposées les cendres qui n'avaient jamais été réclamées. « Tu peux m'expliquer ce que c'est que ces deux urnes, au fond ?» Roman s'efforça de garder une expression neutre, tandis qu'il se dépêchait d'inventer un mensonge. « J'ai trouvé deux sacs contenant des cendres non concassées à côté de la poubelle réservée aux déchets dangereux. Je me suis dit que papa avait dû oublier de s'en occuper. Comme il n'y avait aucun nom dessus, je les ai passées au broyeur et je les ai mises dans deux urnes. » On devrait pouvoir trouver à qui elles correspondent quand on fera l'inventaire annuel.
D'accord. Et sinon, j'ai compté les boîtes de crémation. Il nous en manque deux. Est-ce que t'as une explication pour ça aussi?
Roman se félicita intérieurement de ne pas en avoir utilisé pour Wiz, Cali et Eddie.
Je sais pas. Peut-être qu'elles correspondent aux deux sacs qui étaient à côté de la poubelle, justement. Ou alors papa a fait une erreur dans ses calculs.
Nevea s'avança vers lui. Ils étaient désormais si proches qu'il pouvait sentir l'odeur de poils brûlés sur les bras de sa sœur. Les fours étaient éteints, mais il avait perçu la chaleur résiduelle qui s'en dégageait lorsqu'il était passé à côté. Ce matin, comme beaucoup de matins, Nevea avait dû se débrouiller seule. La veille, Roman avait été tellement focalisé sur les pions qu'il devait déplacer sur l'échiquier pour tenter de protéger sa famille, qu'il n'avait même pas remarqué la présence dans la chambre froide de corps légitimes livrés par des maisons funéraires légitimes.
Tu mens, Roman. Je le sais parce que je connais cette foutue bâtisse dans ses moindres recoins. Je connais chaque brique, chaque plaque de plâtre, chaque vis et chaque boulon. Papa s'occupe des fours. Il s'assure que la chambre froide fonctionne correctement et il a sa petite astuce pour ouvrir la porte du garage sans qu'elle se coince. Moi, je paie les factures. Et donc, je compte les boîtes. Je sais exactement combien d'urnes n'ont pas été récupérées par tel ou tel funérarium, parce que la famille a décidé au dernier moment que ce n'était peut-être pas très important de disperser les cendres de mamie au bord de la rivière. Tu me mens, Romane. Et j'espère vraiment que ces deux urnes et ces deux boîtes manquantes ne correspondent pas à ce que je crois. Je ne te mens pas. Et je sais que tu gères cette boutique comme une chef. Je t'explique juste ce que j'ai fait. Je suis tombé sur ces cendres et je les ai rangées. Point. Quant aux boîtes de crémation, je ne sais pas pourquoi il en manque. Ça se passe toujours comme ça quand je veux filer un coup de main. J'ai fait une connerie, mais ça va pas plus loin. Nevea l'attrapa par la chemise. « Arrête de te foutre de ma gueule » hurla-t-elle. « Je sais très bien que ça a un rapport avec ce qui est arrivé à papa, aux petits doigts de Dante et à tes putains de dents. Tu te rends compte de la merde dans laquelle on pourrait tous se retrouver si ce que je soupçonne est vrai? On pourrait finir en prison, Roman !»« Et qu'est-ce que tu soupçonnes, au juste ?»
Nevea le lâcha et recula d'un pas.
« J'ose même pas le dire. » Mais entre Dante qui doit de l'argent à des dealers que tu pars rembourser au milieu de la nuit, des cendres qui apparaissent comme par magie et des boîtes de crémation qui disparaissent. La destruction d'un cadavre sans autorisation préalable de la famille est un délit grave. La destruction d'un cadavre dans le but de masquer un homicide est un crime passible de la perpétuité. Et le juge en aura rien à foutre que t'aies agi pour sauver la vie de ton frangin.
Roman saisit les mains de sa sœur.
« Nevea, je te le promets. Dante a fait une connerie, mais je suis en train de la réparer. T'as pas à t'inquiéter. »« J'ai pas à m'inquiéter !»
répéta-t-elle, en se dégageant brusquement.
« Dante doit du fric à ceux qui lui ont coupé le doigt, qui vous ont tabassé tous les deux et qui ont probablement tenté d'assassiner notre père. Et t'as le culot de me dire de ne pas m'inquiéter ? Dante et toi, vous êtes tout ce que j'ai. Tu me dis de pas m'inquiéter alors que tu rembourses des trafiquants de drogue et que... Quoi ? Tu sors leurs poubelles ? Le feu détruit tout, hein ? La fameuse devise de papa. T'es tellement con, Rome ! Et je veux pas vous perdre. Je peux pas. Il l'a tué, Rome. Il l'a assassiné. Et maintenant, Dante et toi, vous jouez aux apprentis gangsters et moi, je...
Elle éclata en sanglots, écarta Roman de son passage et traversa le crématorium pour sortir par l'entrée principale. Roman la rejoignit sur le parking au moment où elle montait au volant de son pick-up. Il s'approcha de sa portière.
« Arrête, Nevea ! Qu'est-ce que tu fais ?»
Nevea l'ignora, démarra et quitta le parking dans un crissement de pneus. Roman hésita un instant avant de sauter dans sa voiture de location pour la suivre. Il n'avait plus vu sa sœur pleurer depuis si longtemps qu'il ne savait pas comment réagir. Mais il était sûr d'une chose, elle n'était pas en état de conduire. Il devait donc à tout prix la rassurer et la convaincre qu'il ne se passait rien de grave. Peut-être que cela suffirait à la calmer. Il n'avait pas encore une idée très précise de ce qu'il pourrait bien lui dire, mais il ne pouvait pas la laisser croire qu'il faisait disparaître des cadavres pour le compte de Torrent. Car Nevea ne méritait pas d'avoir ce genre d'image dans la tête. Elle ne méritait pas de devoir vivre avec une telle information. Ce fardeau, c'était à lui de le porter. Il y avait deux voitures entre le pick-up de Nevea et lui. Les quatre véhicules s'arrêtèrent brièvement à l'intersection d'Industrial Way et Sycamore Avenue, puis les feux de stop de Nevea s'éteignirent et elle continua tout droit. Les deux autres voitures ayant tourné à droite, Roman se retrouva juste derrière sa sœur. Il lui adressa un appel de phare, mais elle l'ignora. Ils continuèrent ainsi à remonter Industrial Way, qui devenait ensuite Lucy Boulevard. Roman lui refit un appel de phare lorsqu'ils arrivèrent au croisement avec Lilyhammer Street. Sur leur droite s'étendait un terrain vague qui avait accueilli un temps une salle de jeux d'arcade. Sur leur gauche, un magasin de meubles et d'électroménager qui avait réussi l'exploit de tenir jusque-là, mais dont les vitrines portaient l'inscription « Bail à céder ». Roman profita de ce que Nevea ralentissait à l'approche du feu rouge pour se rapprocher. Il la vit regarder dans son rétroviseur et secouer la tête. Cette fois, lorsqu'il lui adressa un troisième appel de phare, elle lui fit un doigt d'honneur.
« Mais garde-toi sur le côté, merde !»
pesta Roman. Alors qu'ils étaient à l'arrêt, plusieurs véhicules qui rejoignaient Lucy Boulevard les croisèrent côté conducteur, Des fourgons et des utilitaires qui se dirigeaient vers la zone artisanale. Une dépanneuse transportant une épave complètement cabossée en direction de la casse. Une voiture récente, peinte en violet vif, tourna elle aussi, mais s'arrêta au milieu de sa voie, à hauteur du pick-up de Nevea. Roman nota que le chauffeur et son passager avaient l'air latino. Sur la banquette arrière, il y avait deux hommes de plus. Le chauffeur tourna la tête et étudia le pick-up de Nevea comme s'il révisait pour un contrôle de maths. Puis, il regarda ses genoux. Roman le vit tapoter l'épaule du passager, puis ce dernier lui tendit un téléphone et toucha l'écran avant de s'intéresser à son tour au pick-up de Nevea. La voiture violette actionna ses warnings et plusieurs véhicules la dépassèrent. Le feu était encore au rouge quand la vitre arrière gauche se baissa et que deux hommes apparurent par l'ouverture.
« Non !»
hurla Roman. Les deux hommes pointèrent leurs armes vers le pick-up de Nevea, des Kalachnikov à première vue. D'instinct, Roman écrasa la pédale d'accélérateur et fonça vers la voiture. Au moment de l'impact, le compteur indiquait 65 km à l'heure. Un des tireurs eut le temps d'ouvrir le feu, mais Roman avait fait reculer leur véhicule d'un bon mètre, et la rafale passa au-dessus du capot de Nevea pour heurter le trottoir au niveau du terrain vague. Roman pria pour que Nevea démarre, et elle répondit à sa prière en grillant le feu rouge pour traverser l'intersection. Les hommes braquèrent alors leurs armes sur Roman, mais il eut le temps d'enclencher la marche arrière et la plupart des balles manquèrent leur cible, même si quelques-unes atteignirent le pare-brise qui se fissura instantanément. Roman continua à foncer en marche arrière et la voiture violette engagea la poursuite. Il essaya d'ignorer le crépitement des détonations, alors que les deux hommes penchés par la vitre arrière vidaient leur chargeur dans sa direction. Le pare-brise finit par exploser et plusieurs éclats de verre lui entaillèrent le front et le cuir chevelu. Malgré tout, il continua sa course folle. Au bout de quelques dizaines de mètres, il vit un camion qui se rapprochait derrière lui. Vite, il freina de toutes ses forces et la voiture violette passa en trombe à sa hauteur. Il eut le réflexe de se baisser et bien lui en prit, car les tireurs avaient continué à mitrailler et la vitre conducteur rejoignit le pare-brise au royaume du passé. Roman enclencha la première et repartit en direction du carrefour. Le camion de livraison tenta de le doubler, mais Roman ne se laissa pas faire et grilla à son tour le feu rouge, manquant percuter une fourgonnette blanche au milieu de l'intersection. Il continua pied au plancher jusqu'à ne plus voir ni le camion de livraison, ni la voiture violette dans son rétroviseur. À ce moment-là, il prit la direction de la maison et traversa la ville à vive allure. Alors qu'il approchait de sa destination, il sentit que le moteur commençait à montrer des signes de faiblesse. En effet, au bout de quelques dizaines de mètres, celui-ci finit par rendre l'âme. Roman parvint à laisser la voiture glisser jusqu'au parking d'une supérette et s'arrêta au niveau de la station de gonflage automatique. Il descendit et appela immédiatement son frère.
« Quoi de neuf ?»
répondit Dante, la voix endormie.
« T'es où ?»«
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Il semblait parfaitement réveillé à présent. « Est-ce que Nevea est rentrée ?» demanda Roman.
« Je sais pas, je pionçais. Attends, je crois que je l'entends en bas. Nevea ?»
Alors que Roman faisait les 100 pas autour de sa voiture de location détruite, il entendit des cris et ce qui ressemblait à des sanglots, puis une porte qui claquait, et enfin des murmures étouffés.
« Rome, qu'est-ce qui s'est passé ?»
demanda enfin Dante en reprenant le téléphone. « Attends-moi à la maison avec elle, d'accord ? Je suis à la supérette à 100 mètres. La voiture est HS. »
Je viens te chercher.
Non, tu ne bouges pas.
J'ai quelques coups de fil à passer et j'arrive. Je serai là dans 10 minutes.
Surtout, tu ne dis rien à Nevea.
On lui parlera tous les deux quand je serai rentré. Mais c'est moi qui lui expliquerai les choses, d'accord?
Qu'est-ce qui se passe, Rome?
S'il te plaît, ne discute pas. 10 minutes. Il raccrocha et appela Khalil.
Marcus Aurelius,
dit Khalil. T'es où?
À l'hôtel. Enfin, à la salle de sport de l'hôtel. Pourquoi?
Je crois que le Ghost Town Crew vient de tenter de nous assassiner, ma sœur et moi.
Pardon?
Une bagnole remplie de latinos a ouvert le feu sur Nevea. Ils m'ont aussi pris pour cible, mais on a réussi à s'enfuir. Les deux gars qui t'ont aidé pour l'autre truc, là, tu penses qu'ils sont encore disponibles? J'aurais besoin qu'il y en ait un qui protège Nevea et l'autre qui protège Dante.
L'un d'entre eux, oui. L'autre a une mission de prévue à Détroit. C'est qui la priorité, Nevea ou Dante?
Nevea,
Dante sait ce qui se passe.
Et toi, t'as pas besoin de protection? Je peux m'en charger si tu veux.
Non, je préférerais que tu surveilles quelqu'un d'autre, répondit Roman avant de marquer une longue pause.
À quoi tu penses?
L'encouragea Khalil. Je crois que le problème dont je te parlais il y a 2 jours m'a tendu un piège. Quand il est passé au crématorium, il a fait allusion à mes talents de financier et il a sous-entendu que j'étais de mèche avec les BBB. Je pense qu'il a balancé mon nom au GTC. Et aussi celui de Nevera. Regarde les choses de son point de vue. Je l'envoie péter, donc il aura pas son pognon. Mais en me désignant au GTC, soit je m'en sors par miracle et j'accepte de lui payer ce qu'il me demande parce que j'ai trop peur, soit je reste sur le carreau et il se sera vengé de Nevera. Quelle que soit l'issue, il est gagnant. C'était désormais le tour de Khalil de rester silencieux. Quand il reprit la parole, Roman sentit les poils de sa nuque se mettre au garde à vous.
« Je peux faire disparaître ton problème. »
lâcha Khalil. « Pas encore. Je veux d'abord que tu le surveilles, que tu vois où il va, à qui il parle. Appelle ton gars pour lui demander de protéger Nevera. Moi, il faut que je rentre à la maison voir comment va ma sœur. On se rappelle ?»«
Ça marche. »
acquiesça Khalil. Et il raccrocha. Roman récupéra les clés de la voiture de location et partit à pied en direction de la maison. Il se retournait si souvent qu'il avait mal à la nuque. À mi-chemin, le trottoir s'arrêtait et il dut marcher dans l'herbe humide, le long de la route. Lorsqu'il atteignit enfin sa destination, il constata que le pick-up de Nevea était garé en travers de l'allée, perpendiculaire à la Challenger. Il gravit les marches et ouvrit la porte. Dante l'attendait dans le salon, buvant la bouteille de whisky au goulot. Roman s'approcha du canapé, lui prit la bouteille des mains et en avala une longue gorgée. L'alcool lui brûla l'œsophage et manqua lui provoquer un haut-le-cœur.
Qu'est-ce qui s'est passé, alors ?
Demanda Dante. Roman but une autre gorgée, rendit la bouteille à son frère et s'assit à côté de lui. Petit à petit, le whisky réchauffait son corps. « Je crois que le GTC a essayé de nous éliminer, » lâcha-t-il.
« Quoi ?
Ouais, je sais. » Neve a remarqué qu'il manquait des boîtes de crémation à la boutique. On a discuté, on s'est engueulé, et elle est partie en claquant la porte. Je l'ai suivie en voiture et au premier feu rouge, une bagnole remplie de latinos a ouvert le feu sur nous.
« Et comment ça va ? T'as du sang sur le front ?»
Roman se fit la réflexion que son frère avait le même ton que le jour où leur mère avait disparu.
« Ça va. »
« Et Nevea, elle était comment en rentrant ?»
Je crois pas qu'elle soit blessée. Elle s'est précipitée dans sa chambre comme un clébard après un coup de pied. Elle m'a même pas calculé. Qu'est-ce qui se passe, Rom ?
Roman récupéra la bouteille et but une lampée de plus. Je soupçonne Chauncey de m'avoir mis le GTC sur le dos. L'autre jour, il est venu à la boutique en m'accusant de travailler avec les BBB et il a essayé de me faire chanter. Il avait des photos de moi, de toi, de Nevea, de nos voitures aussi. Il y en avait plusieurs où on me voyait avec Torrent et ses sbires au Kingdom, au Candies et au Cooper's Rest. Entre ça et l'altercation que vous avez eue avec lui au Candies, quand Nevea l'a menacé, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour déduire la suite.
Attends, donc si j'ai bien compris, le flic avec qui couchait Nevea a essayé de te faire chanter, tu l'as envoyé chier, et 2 jours plus tard, le GTC essaie de vous buter? Qu'est-ce qu'on fout, Rome? Tu crois pas qu'on devrait quitter la ville?
Et il y a des chances qu'ils aient essayé de nous buter avec les armes que Khalil a déposées dans leur quartier, songea Roman. C'est pas une option, frangin. On est trop impliqués. On n'a pas le choix. Il faut qu'on termine ce qu'on a commencé.
Et ce sera quand, ça? Quand est-ce que ce sera terminé?
Roman se tourna vers son frère.
Est-ce que je dois encore te rappeler que c'est ta faute, tout ça? Mes nouvelles dents, ton doigt en moins, les 200 000 $ que j'ai dû retirer de mes économies, cette fusillade bien réelle qui a failli me coûter la vie et celle de Nevea, c'est juste parce que t'as voulu jouer les gangsters. Tu veux savoir quand ce sera terminé? Ce sera terminé quand on pourra se promener dans la rue sans être obligé de regarder par-dessus notre épaule. Tu fais chier, Dante. Tu crois que ça me plaît, toutes ces conneries? Pas forcément. Mais je crois que tu sais que t'as un vrai talent pour ça.
Qu'est-ce que tu sous-entends?
L'autre jour, j'étais au Cooper's et je suis tombé sur Tank et un autre mec des BBB. Ils étaient bourrés. Ils m'ont raconté tout le pognon que tu faisais gagner à leur boss. À les entendre, t'étais un alchimiste qui transformait le plomb en or. Je te connais, Rome. T'adores ça, faire du fric. T'as toujours aimé ça et t'as toujours été très doué dans ce domaine. Donc c'est ça l'idée? Ça se terminera quand tu leur auras fait gagner assez d'argent pour qu'ils nous foutent la paix? Ou est-ce que tu comptes continuer à faire tes tours de passe-passe jusqu'à ce que la magie arrête d'opérer? L'argent est un outil, rien de plus. Je te dirai quand ce sera terminé. En attendant, essaie de pas mourir. Bon, je te laisse. Je vais vérifier que je me suis pas chié dessus, et ensuite je vais essayer de parler à Nevea. Il se leva et monta à l'étage. Dante alluma la télévision. Il était encore tôt, mais la chaîne locale diffusait un flash info à 11h. Il cliqua sur le bouton 8 de la télécommande et tomba sur un reportage sur le projet de revitalisation du Skids. Ensuite, il y eut un sujet sur les chiens abandonnés qui attendaient d'être adoptés au refuge local. Rien sur une tentative d'assassinat près de la zone artisanale. Dante déverrouilla son portable et consulta la page de Jefferson Run sur les réseaux sociaux. Le premier poste qu'il trouva évoquait une fusillade sur Lilyhammer Street et la fuite des véhicules impliqués. « Quelqu'un a encore failli se faire fumer sur Lilyhammer. Thug life !» commentait un certain Dwayne Cross. « Ouais, c'est chaud par là-bas !» abondait un anonyme. « Ils ne vont même pas en parler aux nouvelles, » songea Dante. « Tout ça parce que personne n'est mort. » Cette prise de conscience était tellement déprimante qu'il termina la bouteille de whisky, puis monta s'enfermer dans sa chambre pour gober un ou deux cachets. Ses rêves ne valaient pas beaucoup mieux que la réalité dans laquelle il vivait, mais au moins dans ses rêves, il ne risquait pas de se faire tuer. « Nevea ?» dit Roman en frappant à la porte. « Va-t'en !»« Nevea, ça va? Est-ce que tu veux qu'on appelle la police ?» La porte s'ouvrit à la volée, et Roman fit un pas en arrière. Nevea se tenait sur le seuil, vêtue d'un vieux jogging. « Je me suis pissé dessus, Roman. J'ai fait pipi dans ma culotte, putain. Et depuis qu'on m'a appelé pour me prévenir que papa était à l'hôpital, j'ai pas eu le temps de faire tourner une seule machine. » « Comme j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on appelle la police? On peut porter plainte et... Je voudrais surtout que t'arrêtes de mentir. Tu le fais avec une telle facilité, c'est effrayant. Tu sais très bien que je peux pas appeler les flics. Pour leur dire quoi? Que mes frangins se sont accoquinés avec des gangsters et qu'ils ont failli me faire tuer? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Vous allez vous faire arrêter et c'est tout. Je connais Chauncey, il attend que ça. Alors écoute, je sais pas dans quoi vous êtes impliqué avec Dante, mais il faut que ça cesse immédiatement. Faites le nécessaire, démerdez-vous, mais ça peut pas continuer comme ça. Je peux plus, moi. Tu comprends ça? Je peux plus! Hurla-t-elle, et elle lui claqua la porte à la figure. Roman baissa la tête. « Je vais tout arranger, Nev, » murmura-t-il. « Je te le promets, je vais tout arranger. » Et il posa la main sur la porte. Il s'attendait presque à la trouver chaude, avec le feu ardent qui brûlait de l'autre côté. La colère de Nevea était tellement intense. Il poussa un grognement, presque de douleur. La colère de Nevea était compréhensible. Sa déception était justifiée. Et sa peur était la seule responsabilité de Roman. Lui aussi avait peur, mais il n'avait pas le temps d'y penser. La fin était proche.